BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et il est midi sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais avant cela, un rappel des principaux titres de l'actualité. L'impasse diplomatique au Moyen-Orient qui continue de plomber les marchés financiers. L'ensemble des bourses européennes reste dans le rouge. Aujourd'hui, le cours du pétrole reste à la hausse avec un baril de Brent qui se rapproche des 107 dollars. Ce midi, regain de tension également sur le marché obligataire avec un 10 ans français autour des 3,72% et un 10 ans allemand toujours au-delà des 3%. Les marchés plombés donc par les dernières déclarations de Donald Trump la nuit dernière, qui a estimé que le cessez-le-feu était, je cite, « sous assistance respiratoire ». Selon les médias américains, il envisagerait dans ce contexte de relancer son opération de protection des navires pour traverser le détroit d'Ormuz. Réponse du principal négociateur côté iranien sur les réseaux sociaux. Il assure que l'Iran est prêt à riposter et à donner une leçon, je cite, aux Américains en cas d'agression. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
Regardez toutes vos émissions en live ou en replay. Restez connecté à l'actualité économique en téléchargeant l'application BFM Business.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com.
BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les jours, ça démarre par cette séquence qui vous concerne, amis professionnels de ce secteur de l'IMO, qui nous concerne, consommateurs de cet immobilier, et qui nous concerne encore plus, nous médias. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on va avoir ce témoignage que nous, les médias, nous influençons les acheteurs d'immobilier et donc, de fait, le marché de l'immobilier. Vous allez voir comment ensuite. Retour en plateau pour le débat du jour, focus sur l'immobilier commercial aujourd'hui, centre-ville ou périphérie, à chaque commerce son emplacement idéal. Allez, d'abord, c'est l'heure du pro de l'IMO.
Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO.
Et on est en ligne avec Céline Denis, directrice de l'agence Nesten d'Orléans. Bonjour Céline.
Bonjour Marie.
Je le disais, je vais célébrer l'influence médiatique sur ce marché de l'immobilier parce que c'est ça votre témoignage du jour, nous dire qu'en fait, tous les papiers qu'on peut écrire, toutes les études qu'on peut publier, et tout ça, finalement, ça réoriente aussi la stratégie d'achat des acquéreurs.
Oui, c'est vrai, les acquéreurs sont de plus en plus friands de classements, de labels. De grandes études sortent évidemment tous les ans. On connaît tous ces classements qui ont lieu à la rentrée de septembre et qui nous indiquent les villes les plus attractives ou les plus dynamiques de France. On a nous-mêmes d'ailleurs à Orléans été élus en 2022 la ville la plus attractive de France, donc qui est une forme de label en fait qui comprend plusieurs indicateurs de scolarité, d'attraction par les transports, de niveau de rémunération et évidemment de prix au mètre carré. Et à la suite de cet article qui a été relayé sur de nombreux réseaux, on a vu dans le mois qui a suivi quasiment 20% de demandes d'acquisition en plus, comme si ce label pouvait apporter une confiance ou être en tout cas un raccourci à la décision.
Et alors Céline, vous dites comme si, et j'ai envie de rebondir sur ce que vous venez de dire, ça veut dire quoi votre message? C'est dire méfiez-vous des classements, finalement Orléans, c'est pas du tout un bon plan.
Non, je pense que ce classement-là particulièrement est excellent.
Tu m'étonnes.
Et que il dynamise en fait mais sur de nombreux indicateurs, donc c'est vrai que les gens arrivent avec ce capital confiance, ça n'empêche pas moins différentes questions qui restent quand même entières, parce que quand on vient comme ça avec un label, quand le label est une attraction en fait de démarrage, il n'y a pas forcément derrière la connaissance de la ville. Les gens ont quand même besoin derrière d'un petit peu plus d'indications. Alors on retrouve ça.
Non, parce qu'en fait, moi j'avais surtout une question qui va, je pense, nous intéresser. C'est pour ça que je plaisantais en disant est-ce qu'on doit s'en méfier, mais enfin quand même, parce que sinon, moi je me passe de vos services, Céline. Si je pars du principe que nous, les médias, on a toujours raison et nos classements sont toujours... Mais justement, votre raison d'être, j'ai envie de dire, c'est aussi de vous adapter aussi au profil de l'acquéreur ou du vendeur d'ailleurs qui vient face à vous et de vous dire, en fait, j'ai lu que, mais la réalité, parfois, elle est tout autre quand même, j'imagine.
Oui, tout à fait. Alors, c'est un gros travail pédagogique en agence. Bien souvent, à la rentrée de septembre, on se retrouve avec des acquéreurs qui arrivent avec des idées de prix mètre carré. Ils sont extrêmement informés des quartiers. On a évidemment l'influence des médias sur cette notion-là, mais on a aussi l'influence des médias sur des aspects parfois plus négatifs qui vont être des articles de presse sur des événements de sécurité, par exemple. Et donc, on va se retrouver avec des demandes, avec des quartiers qui sont totalement boudés ou à l'inverse des quartiers qu'on a labellisés en quelque sorte comme quartier vert, quartier cycliste et qui vont attirer de manière tout à fait subjective. Donc en agence, on est évidemment là aussi pour ramener à une réalité. Voilà, c'est toujours très compliqué de parler de quartier de manière générale ou de ville de manière générale. Et donc, l'intérêt, en effet, d'avoir un agent immobilier local qui connaît extrêmement bien son secteur, c'est aussi de pouvoir confronter l'article de presse à la réalité économique du marché.
Et même chose côté taux d'intérêt, c'est un vrai sujet, ça, parce que nous, c'est vrai qu'alors, on en parle tous les jours sur BFM Business parce qu'on suit, comme le lait sur le feu, à la fois l'OAT, donc la dette de l'État français à 10 ans sur lesquels se basent la plupart des banques. Il y a aussi la perspective d'une remontée des taux de la Banque Centrale Européenne qui sera sans doute encore plus forte sur l'évolution des taux d'intérêt proposés par les banques pour nos crédits immobiliers. Là encore, vous dites, les gens entendent baisse de taux, ils imaginent la folie en banque, et à l'inverse, ils entendent hausse de taux, ils disent, mon Dieu, j'arriverai plus à emprunter.
Tout à fait. On suit évidemment vos articles, Marie, et c'est vrai que vous allez loin, vous détaillez, on a une information qui est complète. On sent bien que le déclencheur à l'appel ou au contact n'est pas forcément aussi profond et que parfois un simple titre de presse qui dirait une baisse des taux arrive, quand bien même cette baisse serait de 0,05 ou de 0,10, eh bien amène un peu de positif finalement dans le giron des acquéreurs et l'effet finalement nous contacter. Voilà, l'information n'a pas forcément besoin d'être détaillée pour avoir un impact. À l'inverse, une angoisse, une inquiétude, un climat anxiogène, même s'il n'est pas suivi de faits concrets de baisse de taux, par exemple, eh bien, peut créer de l'anxiété et une forme d'attentisme sur le marché également. Et donc, ça grippe un petit peu les choses, comme ça peut accélérer l'intention d'achat.
Bon, je veux pas faire la promo de BFM Business et en particulier des experts de l'IMO, mais il me semble quand même que quotidiennement dans cette émission, on essaye justement de faire preuve d'un peu de nuance pour vous expliquer que oui, il y a ce climat anxiogène, que oui, il y a cette hausse des taux, parce qu'il faut pas non plus mentir à celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Mais enfin, effectivement, en fonction des profils d'emprunteurs, vous pouvez encore bénéficier de petites lignes de prêts à taux bonifiés qui vous permettent encore à ce jour, oui, je jure que c'est vrai, d'emprunter à moins de 3% sur 20 ans, c'est possible, même pour des profils d'emprunteurs qui ne sont pas premium. Donc, c'est bien de dire les choses. Voilà, vous avez des articles de presse, ça peut porter votre marché. D'un dernier mot, justement, j'ai fait l'auto-promo de BFM Business et des experts de l'IMO. Je vous donne l'occasion de faire l'auto-promo de Nesten, puisqu'a priori, vous-même, vous avez été élu meilleure franchise de France, c'est ça ?
Tout à fait. L'année dernière, on a bénéficié de ce label de meilleure franchise de France, dont on est évidemment très fiers. Et là aussi, on a pu savourer, en tout cas, récolter les
bénéfices.
Oui, de ce label, puisqu'on a en tout début d'année quelqu'un qui nous a contacté pour vendre sa maison à la suite de ce classement. Donc, on s'en réjouit, on les combat parfois et puis on en profite aussi à d'autres moments. Mais c'est signe qu'on vous suit.
Bon, tant mieux, c'est bien. Et suivez-nous aussi sur BFM Business pour prendre la parole, que vous soyez chez Nesten ou pas d'ailleurs, puisqu'on fait parler tous les professionnels de ce secteur de l'IMO au sens large. Merci Céline Denis, directrice de l'agence Nesten d'Orléans, d'avoir été avec nous. Et merci, donc, si comme Céline, vous avez un témoignage terrain à nous apporter, vous n'hésitez pas à nous écrire. On a une adresse mail, lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr. Allez, c'est l'heure du débat.
Les experts de l'IMO, le débat.
Et à mes côtés, Christian Dubois, directeur commerce chez Cushman & Wakefield. Bonjour Christian.
Bonjour Marie.
Et également à mes côtés, Gérald Proutot, directeur du développement de Pierre Premier Gestion. Bonjour Gérald.
Bonjour Marie.
Alors je le disais en préambule, on va changer de l'immobilier résidentiel et on va partir vers l'immobilier commercial. Et encore que tout est lié quand même, hein, parce que mettre du commerce là où il y a de la vie, c'est quand même l'alpha et l'oméga du commerce et de cet immobilier commercial et de cette manière dont il se réinvente. Alors au départ, je m'étais dit on va faire un match entre les commerces de centre-ville versus les commerces de périphérie. Et en fait, vous êtes tous venus, là, tous les deux, en train de me dire « En fait, les deux, c'est bien. Ça dépend ce qu'on vend. » C'est à peu près ça l'idée, si je résume grossièrement, Gérald ?
Oui, oui, c'est effectivement le cas. Alors, chez Pierre Premier Gestion, on fait à la fois de l'investissement dans des murs de centre-ville et dans des murs de périphérie de ville.
C'est pour ça que vous n'alliez pas me dire qu'il y en avait un qui était tout pourri, évidemment.
Effectivement, non. Mais effectivement, ça dépend également de ce qu'on recherche en termes de, par exemple, de rendement. Généralement, en termes de rendement, quand on va parler de rendement, on va plutôt aller s'orienter vers la périphérie de ville.
Ouais.
Et parfois, quand on va aller chercher des actifs plus patrimoniaux, on va plutôt aller s'intéresser à du centre-ville.
Alors, c'est une question de prix d'entrée, en fait.
C'est une question de prix d'entrée, effectivement. C'est aussi une question d'objectif dans la durée. Même si on va le voir tout à l'heure, je pense que le retail park en fait et les cellules commerciales de retail park sont très résilientes dans la durée, hein, tant en termes de prix que de valeur locative. Et puis on le voit aussi à travers les investisseurs, hein, puisque faut se rappeler que depuis le début d'année, les volumes d'investissement sont totalement effondrés en France et que le bureau qui représentait une part très importante de ces volumes échangés aujourd'hui se sont très sensiblement effondrés. Et on voit le commerce là-dedans qui, lui, continue de drainer les transactions.
Certains commerces, en tout cas.
Alors, certains commerces. Après, on pourra parler aussi des typologies de commerce, ouais. De la taille des investissements, la taille des cellules.
Juste d'un mot, parce que j'ai Alban, notre réalisateur, qui me propose à chaque fois des questions toujours assez pertinentes. Et c'est vrai qu'il a raison de me poser la question pour qu'on puisse être tout à fait transparent. Les prix sur le commerce dans cet immobilier commercial, ils sont de nature à être plus faibles, plus élevés que les prix sur le résidentiel ?
Très difficile de comparer.
Ah voilà, Alban, la réponse, alors, c'est ça dépend, ça dépasse.
Oui, alors, chez Cushman & Wakefield, nous aussi, on aime bien aussi bien la périphérie que les centres commerciaux, que les centres-villes, puisque ouais. Nous sommes présents sur le territoire et l'ensemble des formes d'immobilier, de géographie d'immobilier de commerce. C'est très difficile de comparer le résidentiel et l'immobilier de commerce, parce que l'immobilier de commerce, c'est d'abord un immobilier de ratio. C'est un des rares immobiliers dans lequel l'offre et la demande, ça joue un peu, mais finalement, c'est pas tellement le critère. Ce qui détermine le prix, c'est la capacité d'une enseigne à faire du profit dans un lieu donné, en fonction de son activité et en fonction de ses ratios de profitabilité.
Oui, c'est ça. C'est si je et vends donc, du luxe dans une ville où finalement la population n'a pas les moyens de se payer des produits de luxe, bah en fait, je ne vais pas faire beaucoup de chiffres. Et donc, même si l'emplacement sera idéal pour un autre type de commerce, bah là, finalement, la valeur, elle sera mauvaise.
Exactement. Et comme le monde est bien fait, probablement, d'ailleurs, ces enseignes de luxe ne seront pas positionnées sur ces emplacements.
Mais où seront-elles, ces enseignes de luxe ? Parce que c'est à peu près ça l'idée. Là où on peut faire le distinguo entre nos commerces de centre-ville et nos commerces de périphérie, c'est peut-être que précisément là où il y a peut-être moins de rendement, mais une possible valorisation à moyen long terme et donc une plus-value en sortie potentielle, ça va être pour ce centre-ville, donc là où je vais avoir peut-être des enseignes de luxe, non, c'est à peu près l'idée, des artères peut-être très touristiques plus que de vie quotidienne qu'on peut avoir dans les périphéries.
Oui, il y a un adage qui dit l'emplacement.
Oui, les trois
règles.
Bien
évidemment, aujourd'hui, ce que l'enseigne recherche, c'est vrai qu'elle recherche trois éléments fondamentaux. Elle recherche du flux, du trafic.
Faut qu'il y ait du passage, quoi.
Faut qu'il y ait du passage. Mais faut qu'il y ait le passage qui correspond à la gamme de ce qu'elle vend. La deuxième des choses qu'elle va rechercher, c'est une forme de visibilité. Et la troisième des choses qui est un peu le point d'inflexion maintenant du commerce, c'est une expérience. C'est-à-dire que maintenant, l'immobilier de commerce, c'est un partenariat entre le bailleur et le preneur, dans lequel il faut créer les conditions pour que les consommateurs se sentent bien dans le commerce en question et puissent y dépenser. Avant, on est parti sur une forme de consommation dite quantitative et on est maintenant dans une consommation dite qualitative ou expérientielle. Voilà un peu ce qui va déterminer les valeurs locatives. Alors bien évidemment, le luxe ayant de meilleures marges que le mass market, les artères de luxe ont des loyers qui sont supérieurs à celles du mass market,
évidemment.
Et les enseignes de centre-ville en mass market font des chiffres d'affaires peut-être un peu plus conséquents avec des marges plus conséquentes que des enseignes, on va dire, de discount ou plus populaires en périphérie. Si bien que les loyers sont en tout état de cause toujours proportionnels au chiffre d'affaires et à la marge que peuvent faire les commerçants.
C'est là la différence entre effectivement le résidentiel et cet immobilier commercial. Vous avez mis le doigt sur quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement, sur ce sujet de il faut de l'expérience dans nos commerces. Pourquoi ? Parce que on va pas se cacher derrière nos petits doigts, il y a quand même Amazon & Co. Aujourd'hui, j'ai besoin de quelque chose, je me fais livrer. Pourquoi j'irai en magasin ? Pourquoi j'irai dans l'enseigne commerciale ? C'est ça le sujet du commerce, la vraie révolution des dernières années sur le commerce physique.
C'est effectivement le cas, mais c'est également le cas quand on parle de commerce. On est très positionné sur tout ce qui va être restauration sous enseigne, et on le voit également dans la restauration. Il faut travailler le concept d'accueil, d'ambiance. Il faut également travailler la carte, les produits sur la carte, la qualité de la carte. Tous ces éléments-là, en fait, vont faire venir le consommateur, et c'est ce qui va pérenniser l'exploitation et de là l'investisseur qui sera derrière et qui lui cherche à obtenir des flux réguliers de paiement de ses loyers.
Mais c'est vrai que l'expérience sur de l'immobilier de restauration, ça me paraît assez logique. D'autant plus maintenant qu'on peut toujours juger, écrire des petits commentaires, sur des restaurants qui nous ont plus ou moins servi et la qualité plus ou moins bonne de la nourriture. Mais ce que je veux dire, c'est que sur les autres commerces et cette expérience dont vous parliez, en fait, ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui les commerces ont véritablement pris le pli ? Est-ce qu'aujourd'hui on est garanti qu'en allant et en se déplaçant sur place, plutôt que de me faire livrer, je vais avoir cette expérience qui me fera revenir ?
Alors, il y a plusieurs types d'expériences. La première expérience, elle commence avant le magasin. Elle commence dans la capacité d'une ville, d'un centre commercial, d'un parc périphérique ou d'une zone commerciale à accueillir ses clients. En zone commerciale, évidemment, l'accessibilité, c'est la voiture. Sur la ville, on a vu que les mobilités ont un petit peu évolué ces dernières années.
La mobilité douce. Bienvenue dans les transports en commun.
On est dans des mobilités douces. Et donc, bien entendu, la zone de chardise s'est réduite et on est plus sur du transport piéton, de la mobilité douce ou des transports en commun. Le premier accueil, néanmoins, c'est la capacité d'un lieu donné à accueillir, justement, à créer des conditions pour que les gens se sentent bien. Les centres commerciaux font ça très bien. En périphérie, on ne faisait pas ça très bien, mais depuis maintenant une quinzaine d'années, avec ce qu'on appelle les retail parks, on fait ça quasiment aussi bien que finalement dans les centres commerciaux. La vraie révolution maintenant qui doit être réalisée, c'est celle du centre-ville. Parce que c'est bien d'expliquer les mobilités douces, mais il faut également créer dans les artères commerçantes les conditions de propreté, les conditions de sécurité, les conditions qui font que finalement les clients non seulement passent, mais reviennent. C'est un grand chantier pour les centres-villes. J'espère que c'est un chantier, en tout cas, je pense que c'est un chantier que tout le monde plébiscite. C'est un chantier qui détermine les conditions du taux de vacances dans les centres-villes.
Oui, c'est ça aussi.
Aujourd'hui, le taux de vacances dans les centres-villes, on voit qu'il est plutôt meilleur que dans certains centres commerciaux, parce qu'on est en moyenne en France aux alentours de 11,7%. En périphérie, on n'est qu'à 8%. Il y a moins de vacances en périphérie.
Il y a moins de vacances dans les commerces de périphérie que dans les commerces de centre-ville.
Absolument,
oui. Mais il y a toujours une règle qui est toujours la même, c'est-à-dire il faut toujours être sur des emplacements de premier plan. Alors, par exemple, sur la périphérie, vous avez ce qu'on appelle des zones de destination au sein même d'une zone. Donc, si vous avez, par exemple, un rond-point, on va prendre cet exemple-là, vous allez avoir, généralement, autour de ce rond-point, un certain nombre d'enseignes assez majeures, très visibles, mais parce que ça correspond aussi à leur modèle d'exploitation, et on parlait aussi de l'accessibilité, puisque la voiture va compter.
Ouais.
Et puis parfois, vous allez avoir des enseignes qui vont aller se loger en bout de zone, j'ai envie de dire, donc on sera plutôt sur de la destination. Et là, effectivement, on peut considérer que l'emplacement sera de fait moins qualitatif que l'emplacement qui sera, lui, axé sur l'axe de circulation, le cas échéant. Voilà. Et bien, en centre-ville, c'est la même chose. Vous avez des axes principaux. Et quand vous regardez bien les taux de vacances sur les axes principaux, vous aurez un peu de vacances, mais qui ne sera pas structurel. Et dès lors que vous allez vous éloigner de ces axes principaux, et là, vous allez retrouver de la vacance qui va être un petit peu plus structurelle.
Et c'est à partir de là, puisqu'on revient sur la valeur et que ça passionne Alban en régie, c'est à partir de là qu'on va fixer, par exemple, si moi je suis propriétaire des murs, en fonction du flux dont vous parliez, c'est moi qui vais fixer le loyer du commerce.
Alors, oui, donc quand on est en centre-ville, il y a trois mécanismes. Quand on est en centre-ville, ce qui fixe globalement la valeur de marché, c'est les transactions comparables.
Dans le secteur, on est d'accord.
Dans le secteur et dans des surfaces comparables. parce qu'on ne va pas comparer une petite boutique de 50 mètres carrés avec une moyenne ou une grande surface de 2000 à 3000 mètres carrés. Les valeurs locatives sont parfois du simple au double.
Ouais.
Sur le même emplacement, sur le même immeuble, selon que vous soyez sur une petite boutique ou sur une grande surface de plus de 1000 mètres carrés, il y a un écart qui peut varier jusqu'à 70%. Donc, ce n'est pas juste l'adresse, c'est l'adresse et le format. Puis, c'est l'adresse et le format, et on y revient, l'activité.
Ouais.
Parce que, évidemment, si on est dans une artère de luxe et qu'on est entouré de petits amis de luxe, on a bien évidemment une capacité contributive.
Et si j'ouvre, dans un quartier ultra bobo, une super marque de boucherie, par exemple, où il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas de viande, par exemple, je suis à bon, est-ce que ce serait l'emplacement pertinent? Je donne un exemple, non?
Pourquoi pas?
Ça peut marcher, donc c'est aussi ça, prendre de contre-pied alors.
Oui, pourquoi pas? La seule chose, c'est que le commerçant, qu'est-ce qu'il va faire? Que ce soit une boucherie ou que ce soit une joaillerie, le commerçant va faire toujours la même chose. Il va regarder quel est son chiffre d'affaires, il va regarder quelles sont ses charges sociales, son achat de marchandises. À la fin, il lui restera sa capacité à payer un loyer. Il ne va pas aller sur les Champs-Élysées, le boucher.
Non, bien sûr, mais par exemple, typiquement, s'il fait un carton plein pour notre boucher dans un quartier bobo, peuplé de végétariens, est-ce que moi, je peux, en tant que propriétaire, augmenter le loyer?
Alors, il y a quand même des règles. Vous allez signer un bail commercial. Il y a des indexations qui peuvent être prévues dans le bail, qui vont elles-mêmes suivre des indices. Hein, indices qui récemment d'ailleurs étaient plutôt orientés à la baisse. Hein, mais comme ce sont des indices composites et que, au regard du contexte inflationniste,
Pareil que dans le résidentiel, mais tout est fonction aussi de l'inflation.
Exactement. Hein. Mais quand bien même vous avez un bail avec un indice, faut quand même se rappeler une chose fondamentale, c'est qu'il faut quand même que le locataire, l'enseigne ait les capacités de le payer, cette indexation. Sinon, à un moment donné, il va venir vous voir pour discuter. Et puis, dans un temps second, il viendra peut-être vous voir pour dire, écoutez, si on ne renégocie pas le loyer à la baisse, peut-être qu'on va être amené à devoir partir.
Ouais.
Pas parce que c'est un souhait premier, simplement parce que c'est une réalité économique.
Mais est-ce que justement ces rapports, pardon, mais j'en profite, c'est peut-être pas le thématique du jour, mais comme Alban est passionné par ça, du coup ça me fait rebondir sur d'autres questions. Est-ce que ce rapport justement propriétaire-locataire est plus équilibré dans cet immobilier commercial qu'il ne peut l'être, que ce soit dans le bureau ou dans le résidentiel?
Alors, en tout cas, chez Pierre Premier Gestion, le choix que nous avons fait, c'est effectivement d'être proche de nos locataires, puisque toute la gestion est intégrée. Et l'idée, c'est quand même plutôt d'accompagner. Hein. On l'a déjà fait pendant la période Covid et les mois qui ont suivi, les différents chocs. La question est de savoir si vous voulez garder vos locataires sur une longue durée, les accompagner dans ce sens-là. Donc, il y a des discussions, des négociations. Ou si vous allez prendre le risque simplement de leur dire non, on va rien faire du tout, quitte à peut-être les perdre, à avoir de la vacance, alors qu'il sera peut-être pas structurel, mais qui va générer des frais, etc. Donc, ça sera peut-être pas forcément le bon pari sur du moyen long terme.
Voilà. Vous mettez le doigt sur quelque chose dont je refuse de parler en attendant qu'on soit tous de nouveau confinés. Non, ce n'est pas une prédiction. Mais après le Covid, l'antivirus, ça me fait penser sur votre secteur, qui est cet immobilier commercial. On a quand même vécu deux, trois petites choses au moment du Covid ces commerces de nécessité, ceux qui pouvaient encore rester ouverts et donc qui ont fait preuve d'une vraie résilience face à cette crise-là. Est-ce que là encore, dans vos stratégies et dans les secteurs porteurs, les domaines commerciaux précis, vous avez identifié ceux sur lesquels il y a encore de l'avenir, quoi qu'il arrive, avec une vraie résilience, et ceux pour lesquels c'est un peu fragile? Je pense notamment à l'habillement, par exemple, non?
L'habillement, effectivement, c'est moins 30% de transactions par rapport à la sortie de Covid. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien très précis entre le Covid et le fait que l'habillement...
Il y a eu l'e-commerce aussi.
Il y a aussi un changement dans les modes de consommation. On parlait tout à l'heure d'expérience. Et donc, il y a aujourd'hui beaucoup plus de transactions qui se réalisent dans la restauration. Il y a beaucoup plus de transactions qui se réalisent dans le domaine des loisirs, de façon générale. On parlait avec monsieur tout à l'heure des paddles, on parle des fitness qui aujourd'hui explosent de partout. Donc, on est aujourd'hui sur une transformation de ce que l'on a envie de consommer. Donc, la nécessité, effectivement, vous en parliez tout à l'heure, elle peut se joindre au commerce électronique.
Ouais.
Donc, dès lors qu'on est beaucoup plus dans l'expérience, dans ce que l'on veut partager, on est beaucoup plus à ce moment-là sur le commerce physique. Pour autant, ça n'est pas parce qu'il y a moins de transactions en équipement de la personne que ça ne reste pas le numéro 1 en proportion des transactions réalisées en France. C'est aujourd'hui, avec plus de 40% des transactions, le domaine, l'équipement de la personne qui transacte le plus en immobilier de commerce. juste suivi avec environ 22% par la restauration, ce qu'on appelle le food and beverage dans notre jargon.
Oui, bah, oui non, mais en français, ça donne aussi nourriture et boisson.
Ça marche bien aussi, nourriture et boisson.
Peut-être moins sexy, mais ça marche aussi. Gérald, juste pour terminer, même chose sur les thématiques à privilégier, et que vous, vous privilégiez aussi ou pas, justement. Si vous me dites ça dépend du secteur, ça va m'agacer, je vous le dis.
Non. Alors, écoutez, nous, on a un prisme très fort, en fait, sur la restauration sous enseigne. Ça fait depuis 10 ans qu'on développe cette idée, cette stratégie. Alors, même si le contexte économique est quand même défavorable, pour autant, on voit qu'il y a encore une progression du volume, en fait, de chiffre d'affaires généré. On le voit notamment à travers les nouvelles enseignes qui s'implantent également. Hein, donc, il y a un vrai dynamisme sur ce secteur-là. On le voit dans sa résilience en fonction des enseignes. Donc, nous, ça reste un des secteurs vers lequel on continue d'investir et de se tourner.
Pas l'équipement de la personne, du coup.
Alors, non, mais dans un fonds d'investissement, en dehors des fonds, je dirais, un peu thématiques, dans un fonds d'investissement, nous avons investi sur tous les secteurs d'activité. Par contre, effectivement, là où on doit rester vigilant, c'est sur le choix de l'enseigne. Vous avez quand même, y compris dans ce secteur-là, des enseignes qui tirent un peu mieux leur épingle du jeu que d'autres. On va regarder la valeur locative, l'attractivité de la zone de chalandise quand on est en périphérie, et puis, le cas échéant, de se dire, si ce locataire est amené à partir, est-ce que je peux relouer au même niveau de valeur locative? C'est toujours les mêmes questions qui se posent. Vous avez un locataire, et je dirais que vous fassiez du résidentiel ou autre, un locataire est toujours une personne qui est amenée à partir un jour ou l'autre. Sauf que vous ne savez pas le jour à laquelle il va partir.
Et par ailleurs, pour poursuivre sur ce même thème, c'est quand même un des rares secteurs dans lequel le commerce électronique, c'est l'achat Internet, est venu contribuer au lieu de prendre. Il a additionné du chiffre d'affaires. Donc, dans le secteur de la restauration, le commerce électronique, c'est un allié.
Ouais.
Pas du tout un substitut. C'est un allié, c'est une source de revenus complémentaires, d'élargissement de la zone de chalandise et d'avoir un meilleur chiffre d'affaires et une meilleure connaissance de la marque. Donc, c'est un secteur qui est assez résilient, je suis sûr que monsieur a une bonne stratégie professionnelle.
Ouais, mais c'est toujours intéressant de savoir. Alors, ne serait-ce que là, on parle, vous êtes des... Voilà, je pense que vous avez des gros investisseurs, vous bossez sur des gros investissements, mais quand je m'adresse à celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, il y a aussi des petits investissements dans les commerces, que ce soit en centre-ville ou en périphérie. Et donc, la question de savoir aussi et de conseiller, de se dire, il y a des thématiques à privilégier ou pas, et être vigilant sur qui passe dans la rue commerçante ou dans le centre commercial, c'est un peu plus compliqué, parce que là, c'est sur des grosses enseignes souvent, mais enfin... Quand même, il y a ce sujet-là de réussir à identifier, mais à vous écouter finalement. Alors évidemment, ça fait votre business aussi, il y a du bon partout. Mais est-ce que quand même, et ce sera la dernière question que je vais vous poser, il y a des choses dont on doit se méfier, où vous dites non, là-dedans, faut pas aller, que ce soit parce que c'est un secteur, parce que c'est une thématique spécifique. Voilà, est-ce que vous avez des points de vigilance particuliers à communiquer?
Nous, effectivement, l'un des premiers critères, dans les critères d'emplacement, ça va rester quand même l'attractivité de la ville, de la zone commerciale, etc. Et effectivement, ça, des fois, ça peut être rédhibitoire avant même de parler du prix du locataire, de l'enseigne, etc. Parce que vous pouvez avoir une excellente enseigne dans une zone qui est à la peine. Donc, on sera un petit peu plus enclin à passer notre chemin, si je puis dire, plutôt que de... Voilà.
Vous bouclez la boucle sur l'emplacement. Un dernier mot quand même, Christian?
Oui, un dernier mot. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, les emplacements, les artères les plus chères, les plus valorisées, sont celles qui ont le taux de vacances le plus faible. C'est assez à méditer parce qu'en fait, souvent, il y a une sorte de petite musique qui revient sur le fait que ce sont les méchants bailleurs qui ont des niveaux de loyer qui sont trop forts.
Ouais.
Et c'est à l'origine du taux de vacances. Et en fait, de mon expérience, ça n'est pas le cas. Bien sûr, il peut y avoir des propriétaires de ci, de là qui poussent leur loyer, qui ont presque intérêt à avoir des loyers vacants plutôt que de vouloir acheter la baisse de la valeur locative. Mais c'est extrêmement rare, en fait. Ce sont des exceptions.
Et
à garder en tête... Une artère, les artères les plus chères sont celles avec le plus faible taux de vacances.
Mais aussi avec des rendements relativement faibles, on va le dire quand même. Faible taux de vacances, mais rendements relativement faibles. Il faut choisir, on peut pas tout avoir. Oui. Merci à tous les deux. Christian Dubois, directeur commerce chez Cushman & Wakefield. Gérald Proutot, directeur du développement de Pierre Premier Gestion. On aurait pu continuer, mais là, Alban qui pose des questions me dit de terminer cette émission parce qu'elle est terminée, mais elle revient demain. Nouvel épisode des Experts de l'Immo tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business.
Les experts de l'IMO sur BFM Business.